Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est FAQ.
Ça part ici.
Tu fais partie d'un programme d'études en régime coopératif et tu as envie de partir travailler à l'international pendant tes études? Les stages hors Québec sont faits pour toi. Saisis cette opportunité. Viens nous rencontrer au service des stages et du développement professionnel sur le campus principal au local B6 2005 ou visite le site usherbrooke.ca/stage. Cette émission est commanditée par le service des stages et du développement professionnel.
Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est FAQ.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, une discussion fort intéressante. On a eu le plaisir de recevoir Toby Desgreniers, autrefois étudiant en génie informatique. Comme nous, il était à l'Université de Sherbrooke. Et puis, il a joint une firme appelée Morgan Stanley pour ensuite se partir sa propre entreprise en 2023, appelée Meliark. Donc, Charles?
Ouais, donc un jeune entrepreneur, puis je dirais même notre plus jeune invité jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous allez apprendre en fait des techniques concrètes sur comment socialiser dans un contexte de réseautage. Et aussi, vous allez en apprendre plus sur ces techniques d'apprentissage, parce qu'évidemment, étant en entrepreneuriat, on est toujours en mode apprentissage. Donc, ça va être une très belle discussion aujourd'hui.
On va aussi profondément dans le sujet lui-même de l'entrepreneuriat et parfois sa romantisation un peu excessive. Donc, pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie,
inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu.
Bienvenue, chers amis.
Amélie, une voie de succès. Est-ce que c'est une caractéristique de base pour un entrepreneur d'être optimiste?
Écoute, j'aurais tendance à dire que oui. Tu sais, faut que tu veuilles avoir un impact, faut que tu veuilles aider les autres, faut que tu veuilles produire de la valeur, puis faut que tu aies confiance en tes capacités de le faire. Puis cette confiance-là, je pense très souvent, découle de justement cet optimisme-là envers le monde puis envers soi-même, justement, ses propres capacités, ce que tu es capable d'accomplir, les obstacles que tu es capable de surmonter. Fait que oui, j'aurais tendance à dire que tu as raison de généraliser ça, disons, à beaucoup d'entrepreneurs.
Pour faire du pouce là-dessus, moi, je me pose la question. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent avec l'objectif d'avoir de l'argent, right? Mm-hmm. Ils partent une business, c'est profitable et c'est ça un peu le main concern. J'ai l'impression que nous, on est un peu plus optimistes parce qu'on part un podcast sans revenus, en mettant des heures.
On est différents.
mais je me pose la question, pourquoi est-ce que la motivation de l'argent ou du profit, il manque quelque chose, selon toi, pour un entrepreneur s'il a juste ça comme motivation primaire? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se partent en affaires avec le but, je vais me faire de l'argent, je veux avoir une meilleure vie, acheter une meilleure vie essentiellement. Mm-hmm.
Je pense que relativement tôt, c'est drôle, j'avais une conversation avec un ami de ça il y a quelques semaines. Tu sais, relativement tôt, tu te rends compte que de l'argent, tu n'en as comme plus vraiment besoin. Tu sais, dans le sens où, un coup que tu fais, à moins vraiment que tu veuilles vivre là, bien au-delà des moyens de tout le monde, puis tu sais, show off ta montre, ton char, des choses comme ça, tu sais, un coup, surtout en ingénierie, je vais dire, un coup que tu fais 85-90 000 par année, que tu te rends compte qu'à la fin de l'année, il te reste plusieurs milliers de dollars dans tes poches, puis ton CELI est plein, ton REER est plein, tu sais plus quoi faire avec, t'es comme...
Bon.
C'est ça. Il y a comme rien après. Tu sais, c'est pas juste une question de l'argent, là, puis c'est pas une question non plus de 90-85. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est inespéré quasiment de faire ça en sortant de l'université. C'est la réalité en ingénierie, mais... Tout ce qui est finalité, en fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que même... monter une business. Ils veulent atteindre un objectif. Puis d'un coup, ils sont rendus là. Il y en a beaucoup qui crachent. Ils ne savent plus quoi faire après. Ils ont atteint l'objectif. C'est comme si
le dollar sign qu'ils voulaient. Puis là, il n'y a pas de sens à ça.
Puis même pas juste en dollar sign. Il y en a qui veulent exporter dans le monde, par exemple. Là, ils ont réussi à exporter dans le monde. Ils ont réussi à percer en Europe, par exemple. Bon, ils ne savent plus quoi faire après. C'est important d'avoir des objectifs pour avancer puis pour justement toujours continuer à accomplir des choses qui nous tiennent à cœur. Mais le bonheur, le vrai bonheur de faire ça, c'est justement le journey, le chemin que tu parcours puis les obstacles que tu réussis à surmonter. C'est pas la finalité en soi, c'est jamais la finalité.
Donc avoir une finalité qui est en quelque sorte inatteignable dans le sens que tu veux contribuer, par exemple, au bien-être de la société, ben, mm-hmm. tu peux jamais avoir
tu peux jamais y arriver
de faire ça. Et une vision, être capable de profiter et d'apprécier le chemin pour s'y rendre plutôt que d'avoir justement, ben, je veux me rendre à 1 million de profit. Parce mm-hmm. que si tu as un objectif qui n'a pas de sens, une fois que tu es rendu, tu vas réaliser mm-hmm. que ça n'a pas de sens puis tu vas juste plus avoir de. Ta motivation intrinsèque n'existera plus
mm-hmm.
parce
c'est bizarre,
qu'elle n'était pas fondée. Mais c'est un peu ce qu'on réalise avec beaucoup oui. des entrepreneurs à qui on parle.
Même
c'est
pas juste les entrepreneurs, c'est
l'espèce. Aimer le parcours.
Ouais. Puis je ne sais pas c'est quoi de la nature humaine qui fait en sorte que on est. Il y a quelque chose dans notre cerveau, on dirait, qui nous satisfait plus quand. Genre, on dirait que. Une fois que tu as atteint l'objectif, il y a comme quelque chose qui, tu sais, je veux dire, je sais pas, t'es, la motivation pas à baisse, mais tu sais, il se passe pas l'espèce de gros bang qu'on s'imagine autant de.
J'ai réussi, tu sais.
Exactement, mmh. c'est ça.
Il y a
ça,
un autre objectif
ça.
Qui stresse.
Ouais, ouais, ou comme juste, on dirait que, comme tu as dit, en fait, il y a plus de satisfaction dans le processus ouais. versus que dans.
Mais
que
on veut une raison de vivre, on veut une raison d'être là, tu sais. On est dans une période de vie, disons, que, encore là, la majorité des pays occidentalisés, les pays développés, on a la chance de se poser, ben la chance ou la malédiction, mettons, là, de se poser des questions. Puis des fois, trop de questions. Fait qu'on veut justement avoir cette raison-là, cet objectif-là, ce but-là insurmontable qu'on veut atteindre. Puis quand on regarde en arrière, si on regarde notre parcours, si on regarde les choses qu'on a apprises, ce qu'on se rend compte, c'est les obstacles, puis tout ce qui était justement au travers de notre chemin qui était agréable à surmonter. Même moi, je regarde ma vie en arrière, bon, je n'ai pas encore un gros parcours de vie, t'sais. Mais tous les défis que moi j'avais personnels, que je me suis rendu compte que je voulais travailler, puis que j'ai travaillé, puis que j'ai corrigé, à chaque fois, je me disais, waouh, j'aurais jamais pensé, tu sais, c'est tel obstacle, tel objectif, telle chose que je voulais faire, mais c'est jamais une finalité. Je regarde le chemin, je regarde pas, ah oui, le jour que j'ai atteint ça, j'étais ultra heureux, comme s'il n'y avait plus rien à faire, puis tout était magnifique.
C'est drôle,
oui, ça peut arriver, mais quand tu arrives le lendemain, tu es comme, bon, je fais quoi?
C'est comme dans la réflexion du passé, ce que tu regardes, c'est pas le milestone que ah, ouais. j'ai gagné la course, mais c'est tu regardes tout ce que tu as fait pour t'y rendre, et tu es comme, waouh.
C'est ça qui est motivant, je suppose. Parce que toi, qu'est-ce qui t'a motivé à partir de ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu es parti d'un travail chez Morgan Stanley?
Très respectable.
Oui, qui devait être super bien payé.
Sécuritaire. Moi, ma vie, j'aurais pu être là. Tout le restant de ma vie, j'aurais pu coaster en tant que tel.
Probablement gravir les échelons, arriver à un très bon poste.
Définitivement.
Qu'est-ce que tu as fait?
Non, j'ai scrappé ma vie.
Pourquoi partir?
Ben, au final, ça a été justement la. Tout ce qui est un petit peu politique de retour au bureau, en fait, suite à la COVID, il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont exigé un retour au bureau, disons 2-3 jours semaine, même certaines entreprises 5 jours semaine. Ça a été énormément critiqué par beaucoup de gens. Puis comme de fait, chez Morgan Stanley, c'était un petit peu la même chose. Donc moi, j'ai été engagé à distance à Sherbrooke. Ouais, puis dès le début, j'avais clarifié justement avec mon boss direct, mon superviseur direct, que j'allais pas faire de présentiel. Fait que j'ai travaillé un an là, puis comme de fait, un an après, ben là, ça venait de 4 niveaux hiérarchiques au-dessus de lui. Tu sais, c'est une grosse organisation, hein, quand il y a des décisions qui partent du top et qui descendent, là, c'est beaucoup de niveaux hiérarchiques. Puis quand tu te dis que 4 boss au-dessus de toi, 4 niveaux hiérarchiques au-dessus de toi, il y a une décision qui a été prise, puis c'est toi qu'il faut qu'il fasse ça, qu'il impose ça à tes employés, ça a du poids quand même. Là. Tu vas pas commencer à critiquer l'organisation. Tu sais, tu veux. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ben heureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent pas perdre leur job, puis des fois, ça peut être compliqué d'aller à l'encontre, mettons, d'un mouvement comme ça. Là. Fait que 4 niveaux hiérarchiques au-dessus de mon boss, faut que les gens reviennent au bureau 2 jours semaine. Mon boss m'en a parlé, j'ai fait « ça fonctionnera juste pas ». Je monterai pas à Montréal à chaque semaine, c'est sûr.
T'aimais ton beat de pouvoir setter un peu ton propre horaire?
Ben, c'est pas juste ça, en fait. Il y a énormément... C'est incroyable les avantages que t'as à travailler à distance, en fait. Là, juste en termes d'organisation, d'horreur, oui, mais de sauver du temps. Tu sais, faire tes lunchs, ta bouffe, t'es chez vous, t'as ton fridge, t'as tes affaires, sauver du temps, t'as pas de voiture à prendre, tu payes pas d'essence, tu sauves de l'argent, t'es confortable. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une responsabilisation qui doit se faire au niveau des employés qui travaillent à distance. Faut que tu sois productif, faut que tu produises de la valeur pour l'entreprise. Ça, c'est difficile pour les entreprises de faire confiance aux employés. Mais c'est aussi la responsabilité des employés de montrer qu'ils sont dignes de confiance puis de continuer à produire de la valeur. Fait que c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup de misère avec ça. C'est très compliqué comme dynamique. Et il y en existe. Il y en a plein. On en voit sur Internet des fameux memes, Reddit, peu importe, les forums. Il y en a des employés là, qui disent « j'ai une job 40 heures. Dans ma première année, j'ai réussi à automatiser ma job. Maintenant, la job, elle me prend 2 heures puis je paye 40. » Il y en a des gens qui sont malhonnêtes. Mais là, c'est tout le processus de qui t'engage, justement, c'est quoi leur valeur, comment tu t'assures que tout le monde peut se faire confiance, c'est quoi ta structure de management puis de leadership pour dire qu'ils vont se sentir bien dans ton entreprise puis ils vont vouloir s'investir. Tu sais, c'est une mission commune au final, c'est pas juste le propriétaire de l'entreprise qui veut accomplir quelque chose, il faut que les gens adhèrent à cette mission-là puis que tu puisses l'aider comme ça puis montrer le chemin puis que les gens te suivent. C'est là que les gens vont adorer prendre responsabilité sur leurs actions puis sur leur job.
Puis ça, je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'en effet, avec la montée de tout ce qui est télétravail, avec tout ce qui est l'importance pour certaines personnes, comme toi par exemple, de dire, regarde, moi j'ai ma job chez nous, j'ai tous les avantages qui viennent avec ça, puis j'y tiens de la garder, ben, je veux dire, t'es pas un exemple isolé de ça, là, je pense qu'il y en a énormément, puis dans le passé, comme tu as dit, les usines, peu importe, c'était satisfaisant, ben pas satisfaisant, mais ça permettait d'avoir une mainmise sur les employés, de les avoir physiquement. Et en effet, ça réglait les problèmes de confiance. Fait que pour une entreprise, de dire ben on va responsabiliser les employés avec une vision, je pense que ça, c'est hyper important pour, tu sais, je dis pour ceux et celles qui veulent se partir d'une entreprise ou même être dans une entreprise ou être un gestionnaire ou peu importe, c'est de pas nécessairement les responsabiliser avec les tâches, mais avec la vision. Right, que l'entreprise. Est-ce que toi, tu as des pistes de solutions sur comment est-ce qu'on peut atteindre ça?
Oh, c'est une excellente question, ça. Déjà, une conversation, très honnêtement, en général, ça commence par ça. Tu gères une entreprise, tu gères une équipe, mais réellement, tu collabores avec des humains, des gens qui ont leur réalité, des gens qui ont leurs priorités aussi. Tu sais, justement, dans le télétravail, moi, j'ai pas encore de famille, mais pour les gens qui ont des familles, mon Dieu, la flexibilité que ça donne. Pour les enfants, la garderie, l'école, les activités scolaires ou parascolaires. Fait que de connaître tes employés, de connaître ton équipe, que tu sois gestionnaire ou encore propriétaire d'entreprise, tu sais, j'entends des très bons entrepreneurs, disons, passer à Hypercroissance, ça se passe, tu sais, d'autres podcasts qui sont merveilleux au Québec, qui disent qu'ils vont sur le plancher, ils vont parler à leurs employés, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe, tu sais, comment ils pourraient améliorer les choses. C'est pas eux qui vont parler à leurs employés de comment ils devraient améliorer les choses. C'est les employés qui vont les critiquer puis leur dire non, on devrait faire ça comme ça. T'sais, au final, c'est de pas engager des employés pour leur dire quoi faire. C'est d'engager des employés pour te faire dire quoi faire.
Ah, c'est une belle prémisse.
Ça. Ouais, j'adore ça.
Mais je trouve que ça. Puis j'ai l'impression, Charles, je pense que je t'ai déjà dit ça, ça me fait penser à un lien. C'est que, tu sais, j'ai l'impression. En tout cas, moi, quand je parle à Charles, quand on fait des projets ensemble, c'est souvent sa force, c'est d'identifier les forces chez les autres un petit peu. Et j'ai l'impression que, comme tu dis, chez un entrepreneur et chez quelqu'un qui construit une business, malgré qu'il peut avoir des compétences en ingénierie, tout ça, la plus grande force qu'il devrait développer, c'est les autres, un certain sens. C'est
définitivement.
C'est, parce que sa business sera construite par lui et les autres. Donc, cette collaboration-là, c'est ce qui va permettre à cette business-là. Genre, tu fais un pas quand tu construis seul versus quelqu'un fait 5 pas quand il construit à plusieurs, quand vous collaborez ensemble. Mais c'est vraiment une belle vision.
Est-ce que t'es seul actuellement dans ton entreprise?
En ce moment, oui. Je commence à peine.
Ouais, c'est vrai. Ça fait un an. Là, comme
ben, parle-nous
ça,
un
ça
peu
fait
de
un
ça.
An.
Ouais.
Ben, en fait, en avril 2023... Le 11 avril 2023, pour être plus précis, le 9 avril, je travaillais plus chez Morgan Stanley. Le 11 avril, je me startais en entreprise. Fait que, au courant d'une fin de semaine, ça s'est décidé. Puis, tu sais, ça a été, mon Dieu, ça a été un petit peu les montagnes russes, honnêtement. Là. On pourra reparler un petit peu de la romancisation de l'entrepreneuriat parce que j'ai un petit truc à dire sur ça. Mais,
on en parlera.
Tu sais, au début, faut, surtout en consultation, je vais dire, il faut que tu trouves des clients. Right, faut-tu te rendre compte que tu vas pas juste être devant ton ordi. T'sais, moi, justement, mon travail, c'est ça, c'est d'être devant un ordi, là, genre à longueur de semaine. T'sais. Puis là, tu te rends compte, OK, je ne peux pas juste rester derrière mon ordi. Là. Les réseaux sociaux et tout, oui, ça fonctionne, mais au début, il te faut un partenaire stratégique. Il te faut quelqu'un qui va te faire confiance, qui va t'engager, qui va dire oui, je suis prêt à faire affaire avec toi. T'sais. Fait que c'est de développer un petit peu ton réseau, aller rencontrer des gens. Fait que ça a été très difficile au début de, je vais dire, pas perdre mon temps. Tu sais, de comprendre c'est quoi les vraies priorités. Au début, tu te dis, ah, OK, logo, enregistrement à l'entreprise. Tu sais, tu penses pas nécessairement à juste faire fuck l'administration puis aller vers les gens. Aller parler aux gens, aller leur demander c'est quoi leur problème, qu'est-ce que tu peux faire pour eux. Produire puis fournir de la valeur, en fait. Réellement, les entreprises, c'est ça. C'est fournir de la valeur. Puis pas juste les entreprises, mais les employés aussi. Tout le monde devrait gérer leur vie comme une entreprise. Honnêtement, encore une fois, on pourra revenir un petit peu sur cette note-là, mais fait que ça a été gros, ça. Pendant les premiers mois, là, aucun contrat, aller parler à des gens, aller essayer de comprendre leur réalité, voir comment on peut les aider, comment je peux les aider. Puis c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu l'automatisation. Mon premier contrat pour quelqu'un, ça a été de l'automatisation de tâches, de processus d'entreprise. Right? Fait que c'est gros, de l'automatisation de, justement, courriel, tout ce qui est le client potentiel envoie une fiche de renseignement, par exemple. Fait que là, on va automatiser tout ce qui est réception de la fiche, aller rentrer les informations de la fiche, scanner la fiche, mettre ça dans un, que ce soit dossier Excel ou CRM ou peu importe. Fait que ça a été beaucoup de l'automatisation pour ce premier client-là. Puis, pourquoi l'automatisation? Parce qu'à la base, je n'avais pas prévu faire ça. À la base, je voulais faire du développement. Moi, je me rendais compte de l'impact que ça pouvait avoir. Encore une fois, on revient un petit peu à la mission sociale d'une entreprise. Tu sais, moi, c'est d'avoir un impact, d'aider les entreprises du Québec à, justement, automatiser leurs opérations, être plus productifs, comprendre leur technologie, puis les accompagner là-dedans. Là. Fait que, l'automatisation, c'est comme ça que j'ai découvert. Ensuite, continuer à parler, envoyer des cold emails, faire travailler mon réseau qui était à ce moment-là très, très peu fourni, je vais dire, des bonnes personnes pour ça. Fait que je pense que mon premier conseil par rapport à ça, ça serait pendant que les gens sont à l'université puis tout, développer votre réseau, mais vraiment. Là,
va vers les gens.
Ah oui, définitivement.
Il y a des entrepreneurs qui se perdent dans le... Ce que j'aime, c'est ce que tu as dit, c'est que tu voulais faire du développement. Mm-hmm. Puis tu as réalisé à quel point l'automatisation avait un impact.
Mm-hmm.
Et tu as réalisé ça en demandant aux gens « qu'est-ce que je peux faire pour vous? »
Ben oui.
Puis ce qui est grave, des fois, quelqu'un se part une business, se dit « j'ai une idée, on va sticker à ça. » Right?
Ouais.
Et ça finit par, en anglais, « crash and burn » parce qu'il reste fixé sur une seule idée.
Cette idée-là est pour personne.
Exact, cette idée-là est pour personne. Tandis que ici, tu as plus une vision que tu te pars en entreprise. Ben, c'est quoi le problème que je veux régler? Tu as une idée générale d'où tu veux opérer. Maintenant, allons parler aux gens et faisons-nous une idée du problème. Et une fois que ça c'est fait, ben là, tu as quelque chose de concret que tu sais qu'il y a une application réelle. Fait que c'est une stratégie incroyable.
Puis concrètement, c'est comme ça que tu l'as fait. C'est-à-dire, tu as envoyé des courriels comme ça, tu as appelé des personnes, tu t'es présenté à certains événements. C'est ça que tu as fait?
C'est littéralement ça que j'ai fait. Honnêtement, c'est...
Ça paraît facile, non?
Oui, ça paraît facile. C'est plus facile qu'on pense quand on utilise les bons outils et les bonnes approches.
OK.
Puis c'est là que j'aurais tendance à dire que c'est très utile dans la vie, autant entrepreneur que professionnel que personnel, d'avoir des mentors. Tu sais, quand tu ça peut être aussi simple que tu t'en vas jouer au badminton ou au soccer ou au basket. S'il y a quelqu'un de plus fort que toi dans l'équipe, tu sais, aller demander conseil puis voir comment tu peux t'améliorer. Ouais. Ben, professionnellement, c'est en faire. Tu rentres dans une entreprise, trouve quelqu'un qui est meilleur que toi puis demande-y comment tu peux t'améliorer, qu'est-ce que tu peux apprendre pour produire plus de valeur puis pas juste pour cette entreprise-là, mais pour d'autres travails. Entrepreneuriat, même chose. Trouve un entrepreneur qui a fait la même job que toi ou quelque chose, ou juste en entrepreneuriat, quelque chose de peut-être probablement différent, mais qu'il y a des connaissances, qu'il y a des apprentissages faits. Tu sais, si tu adoptes cette approche-là à comme toute la vie entière avec n'importe qui et tout le monde, ben, tu as des choses à apprendre de n'importe qui. Tu sais.
Ouais.
Moi, j'avais jamais fait de podcast. Là, vous autres faites des podcasts. J'aurais probablement une panoplie de choses à apprendre sur ça. Tu sais.
Certainement, mais en même temps, tu sais, tout ce qui est mentor et tout, je pense que la barrière des personnes, pourquoi est-ce que c'est difficile, c'est parce que ça te met vraiment en face... J'entends, OK, t'es pas bon à ça. Ouais, ou comme, t'es pas bon à ça. Puis ça, pour tu sais, comme une personne, je pense que c'est inconfortable de se faire dire, t'es pas bon à ça, voici comment tu peux t'améliorer. Je sais pas, on dirait qu'on stick sur le, t'es pas bon à ça.
C'est très confortable.
Genre, ça te fait mal, t'es comme, ah.
C'est plus le fun de rester dans ta réalité que, non, je sais ce que je fais, on va sticker sur cette idée-là, les autres sont caves.
Et pourtant, c'est ça, et pourtant, l'entrepreneuriat, comme t'avais dit, en fait, vive ta vie comme si c'était une entreprise. J'ai l'impression qu'une grosse partie de ce que tu expliques, c'est comme tu t'es mis dans des positions qui sont inconfortables, t'es juste en approchant du monde et tout. Là, tu faisais référence à juste couper des conversations pour te présenter, par exemple, dans des événements de réseautage. Ouais. Peux-tu parler un petit peu de ça, puis on reviendra au sujet de vivre sa vie avec une entreprise, mais comme juste pour te présenter et tout dans un événement de réseautage?
Oui. Ben justement, comme on parlait un petit peu avant le début du podcast, si tu vas dans un événement de réseautage, qui a 100 personnes, je vais dire, puis ton but, c'est, bon, mettons, tu vas là, tu connais personne. Disons qu'on part avec cette prémisse-là, right? Si tu rencontres deux personnes, puis tu as parlé à deux personnes dans ta soirée, pendant une soirée de 3 heures, tu as mal fait ta job. C'est aussi stupide que ça, c'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est, on parlait justement de d'être mauvais, puis de se dire qu'on est mauvais. Des fois, c'est important de se confronter à la réalité puis de se dire, effectivement, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, qu'est-ce que j'ai mal fait. Fait que dans une soirée de réseautage, parler à deux personnes en 3 heures, t'as mal fait ta job, straight up. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Pourquoi je dis ça? C'est, puis là, il y a des nuances aussi, là. Si quelqu'un t'apporte un contrat de 3 millions de dollars, c'est peut-être une autre histoire. Mais s'il y a une centaine de personnes, puis on dit que réseauter, faire croître son réseau, c'est probablement l'aspect le plus important pour justement être en entrepreneuriat, puis apprendre, puis devenir meilleur dans peu importe quel aspect de la vie. Ben s'il y a 100 personnes, essaie au moins d'aller, tu sais, donne-toi un objectif d'aller parler à, en 3 heures, mettons, une conversation de 15 minutes par personne. Fait que tu rencontres 12 personnes. Right? 12, 15, 20, tu te mets un objectif, puis tu parles avec quelqu'un. Tu essaies d'apprendre, il faut que tu sois curieux, il faut que tu y poses des questions, il ne faut pas que tu sois là pour parler d'affaires. Tu interagis encore une fois avec des gens, des humains, des gens qui ont des réalités, des priorités, des. Mon Dieu, des une vie à eux qu'ils ont à vivre. Fait que tu vas vers les gens, tu poses des questions, tu demandes de l'intérêt, tu apprends à les connaître, puis un coup que les gens ne se font pas de cachette dans une soirée de réseautage, encore une fois. Un coup que tu as appris un petit peu si c'était qui la personne, échanger des cartes d'affaires ou dire « ça serait le fun d'aller prendre un café. Hey, écoute, je vais aller continuer ma tournée, rencontrer d'autres personnes intéressantes. » Les gens là, sont super contents là, que tu leur ailles parler 10-15 minutes, que tu leur ailles accorder un petit peu de ton temps. Puis après ça, tu leur dises « écoute, j'ai adoré discuter avec toi, c'était merveilleux. Il y a tellement de gens ici, j'aimerais ça rencontrer d'autres personnes. » Les gens, ils respectent ça, ils n'ont aucun problème avec ça.
Ah non, mais ça, là, c'est certainement un truc que je pense que c'est très important qu'on se souvienne. Parce que il y a une introduction à une conversation, puis on quitte la conversation. Right? Surtout quand tu fais du small talk. Puis souvent, le défaut, pas le défaut, mais le réflexe premier quand on sort d'un small talk, c'est de dire, mettons, comme c'est de retourner aux besoins fondamentaux. Donc, par exemple, je dois aller aux toilettes. La bouffe a de la bonne, je vais aller manger quelque chose. Mais juste d'être.
Ma mère m'appelle.
C'est vrai, on essaie de trouver des excuses, mais en fait, tout ce que tu dis, ben non, mais essaye même pas de trouver des excuses. Fait juste dire, ça doit comme, hey, merci pour la discussion et tout. Hey, moi, c'est certainement quelque chose que je vais me souvenir. Puis, pour introduire maintenant une conversation, est-ce que tu as des trucs pour ça? Parce que c'est comme sauter d'une falaise. C'est difficile de rentrer quelque part. Ça, c'est plus difficile. Est-ce que tu as des trucs par rapport à ça? Est-ce que tu es devenu à l'aise avec ça ou même encore aujourd'hui, c'est difficile pour toi?
Je suis devenu définitivement plus à l'aise. Ouais. Ça, définitivement, écoute, parce que j'ai pas eu le choix, encore une fois. Dans une soirée de réseautage où tu connais personne, c'est premièrement extrêmement intimidant.
Certainement.
Right? Déjà, mettons, je prends un exemple de la Chambre de commerce ici à Sherbrooke, une soirée de réseautage de la Chambre de commerce. Tu arrives à, mettons, 5 heures, c'est un 5 à 7, tu te rends compte que il y a quand même déjà la moitié des gens qui sont déjà arrivés avant 5 heures. Tu rentres, tu as 50 personnes qui te regardent parce que tout le monde regarde tout le monde. Tu es comme, OK, tout arrive. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très formel en général.
Attends, j'ai une idée. On fait quelque chose. Charles, nous deux, on est en soirée réseautage. Là, je veux que tu entres puis tu te présentes comme si tu venais d'arriver et tu voulais t'intégrer à une conversation. Fait que nous, on est en train de parler. Comment tu fais ça?
OK, intéressant. Ben écoute, très honnêtement, je me pointe à côté de vous autres. Okay. Je vous laisse discuter parce que vous êtes déjà dans une conversation.
Ouais. Right. Salut, ton entreprise est vraiment belle. Waouh, on est assistants de l'entreprise.
Bonjour, monsieur. Je voyais que vous aviez une belle conversation. Je voulais pas nécessairement vous couper, mais tu sais, je voulais en apprendre plus sur vous autres. J'étais un petit peu curieux de ce que vous faites dans la vie puis me présenter en même temps. Qu'est-ce que vous en dites?
Mais quel jeune homme respectable. Intégrons-le.
Mais honnêtement, par contre, c'est vrai que je le prends pas mal.
Non, c'est ça, t'es honnête. T'es comme, il est intéressé. J'aimerais faire partie, puis...
Non, OK, oui.
Mais comme on parlait tantôt de... justement, les fameuses excuses que tu cherches pour terminer une conversation.
Ouais.
Reste honnête, reste authentique. Ben, pour starter une conversation, même affaire. Reste honnête, reste authentique. On est curieux, on veut réseauter, on veut apprendre à connaître des gens. T'es pas, mais, c'est ça la nuance. C'est tout dans, je veux dire, le mindset. T'sais. Tu t'en vas pas là pour faire affaire. Tu t'en vas pas là pour faire de la vente. Tu t'en vas pas là pour trouver des clients. Tu t'en vas là pour réseauter. Tu t'en vas là pour apprendre à connaître des gens, parler avec des gens, te développer même dans tes skills de discuter avec des gens. Fait que,
pas trop de pression sur toi. T'as avec le bon mindset, t'arrives là peut-être, ouais, plus détendu. C'est ça. Parce que si tu y vas, hein, l'idée, je dois me vendre, je dois trouver des clients, je dois faire affaire ce soir.
Je l'ai déjà fait et je me suis planté sur un moyen.
T'as... Ah ouais,
comme ça. Parle-nous de ça, parle-nous de ça.
Ben, honnêtement, c'est justement, je pense, ma première soirée dans la chambre du commerce. J'avais pas nécessairement d'objectif, je voulais découvrir un petit peu c'était quoi. Puis là, tu t'en vas vers les gens, puis c'est des gens qui ont leurs entreprises. Là. C'est, ouais, des gens qui peuvent être, ouais, des potentiels clients, right? Puis je l'ai vu très, très, très clairement parce qu'il y a des gens qui ont des expressions faciales assez distinctives, tu sais, que ça se voit, les émotions qu'ils ont en face. Fait que, tu sais, j'étais là, à un moment donné, je me fais poser la question, « Ah, OK, ben parle-moi de toi un peu, de ton entreprise, puis tout. » Puis là, moi, je suis tombé en processus vente. Là, j'étais comme, « Hey, toi, t'as l'air de quelqu'un qui veut faire affaire avec moi. » Fait que là, je commence à y parler de mon approche, je commence à y parler des clients que j'ai aidés, je commence à y parler de comment je peux l'aider. Tu sais, je parle de moi, mon entreprise, moi, comment je t'ai aidé, moi, qu'est-ce que j'aime de moi. Tu sais, hey, ça marche pas. Tu sais, j'ai vu son visage faire comme, OK, c'est long puis c'est plate. Puis honnêtement,
ma mère m'appelle.
C'est ça, lui, c'est ça. Il voulait dire ma mère m'appelle. Tu sais. Fait que il y a une grosse différence entre, encore une fois, parler de toi versus t'intéresser aux autres. Je pense que c'est ça l'approche, c'est ça la clé. C'est d'être beaucoup plus orienté, disons, écoute active. Puis je sais qu'on entend ça à l'université, écoute active, là, puis à chaque fois, on est, ouais, comme, « Ah, mon Dieu, quel genre bullshit. » Mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à ça, quelque chose de beaucoup plus... il y a beaucoup plus de valeur qu'on pense à ça. Puis c'est justement d'écouter les autres puis de les laisser parler. Puis à la fin de la soirée, ils se disent, « Hey, ce gars-là, là, il est tellement cool. » Puis toi, tout ce que tu as fait, c'est les laisser parler.
Mais ça, c'est fascinant parce que c'est aussi ce qu'on a... Genre, les meilleures discussions, entre parenthèses, puis ça, c'est avant le podcast, là, c'est-à-dire... Parce qu'on dit, « OK, le podcast, bref, on pose des questions, c'est ça notre rôle. » Mais comme, juste dans des discussions, moi, tout le monde qui m'ont dit, « Oh mon Dieu, c'était tellement intéressant de parler avec toi. » J'étais comme, « J'ai à peine... »
Tu redis rien.
C'est fou. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est genre... Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe en effet que comme...
On adore ça, parler de nous. Puis c'est, ouais. Puis, mais c'est vraiment ça. Moi, quand je parle avec de mes amis proches, mettons, que, ouais, tu sais, plus tu deviens ami avec quelqu'un, plus tu retournes vers un ratio, mettons, 50-50, des fois plus. Tu sais, toi, tu vas parler plus. Ou, tu sais, c'est pas mal, les deux parlent autant, les deux posent autant de questions, puis tout. Mais là, c'est le fun. Ça fait des conversations merveilleuses où tu te sens valorisé, puis tu fais pas juste valoriser l'autre. Puis justement, parler de nous, on adore ça. Moi, quand je parle à mes amis proches maintenant, je parle quasiment juste de moi. Puis en fait, on switch souvent comme ça. On parle juste de moi, on pose des questions sur moi. Après ça, c'est rendu ton ami. On parle juste de lui, on pose des questions sur lui. Ouais. Puis on switch de sujet comme ça. Ça, c'est là que tu vois la différence entre quelqu'un que tu viens de rencontrer puis justement des amitiés très liées, très proches. Quelqu'un que tu viens de rencontrer, ça va être beaucoup plus... On focus juste sur toi, puis je vais te poser des questions, puis parle de toi. Puis les gens, ils adorent ça. Ouais. Moi, quelqu'un qui démontre énormément d'intérêt envers moi, ça m'est déjà arrivé aussi, que j'avais de la misère à tourner la conversation vers la personne parce que la personne démontrait tellement d'intérêt et voulait tellement me poser des questions. Je me suis dit, bon, ben, rendu-le, regarde, je vais parler de moi, super. Mais il y en a qui sont vraiment tournés vers ça naturellement.
Ouais.
Si tu te poses la question comment aborder les gens puis c'est pas naturel, mets l'emphase sur l'autre personne, fais juste poser des questions puis écoute. Ça, c'est simple que ça.
C'est quand même fascinant, par contre, parce que c'est j'ai tellement l'impression qu'on s'imagine que converser avec les gens, c'est vraiment plus compliqué qu'en fait, c'est juste de poser des questions. Maintenant, sur l'art de poser des questions, parce que tu peux pas juste poser des questions comme ça. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est un skill à développer. Qu'est-ce que tu poses comme question? C'est quoi ton mindset par rapport aux questions que tu poses? Est-ce que ça te vient naturellement? Est-ce que tu as une liste?
Moi, ça me vient quand même naturellement. Très honnêtement, j'ai toujours adoré poser les bonnes questions ou trouver les bonnes questions, je vais dire. Tu sais, dès le moment où je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, à, mettons, l'âge de 14 ans environ, ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'était toutes les questions que je me posais sur « Ah, c'est quoi ma passion? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? En quoi je veux étudier? » J'essayais toujours de me dire « C'est ça la bonne question? C'est-tu en quoi je veux étudier ou qu'est-ce que je veux faire? Ou c'est quoi l'impact? » Puis c'est à ce moment-là que tu es capable de, comment je peux dire, de tourner des situations ou des questionnements que tu as en quelque chose d'un petit peu plus significatif, un petit peu plus profond, encore une fois. Fait que quelqu'un qui parle de son entreprise, right? Souvent, c'est difficile de trouver des questions au début de bon, qu'est-ce que tu veux savoir sur lui? Mais c'est pas tant qu'est-ce que tu veux savoir sur lui, c'est plus qu'est-ce que toi, tu trouverais intéressant qu'une personne te pose comme question. Fait que si toi, tu te faisais poser une question, qu'est-ce que tu aimerais parler de ton entreprise? Puis moi, j'aime honnêtement parler de mes services puis ce que je fais pour mes clients, si c'est tel quel, versus parler de c'est quoi les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quoi les défis que j'ai fait, les apprentissages que j'ai eu. Fait que c'est un petit peu la même tournure de discussion avec les autres personnes. Quand je rencontre des gens qui ont des entreprises de plusieurs millions de dollars par revenu, ils ont 50 employés, même ces gens-là qui font des millions par année, c'est les mêmes questions. Ça a été quoi dans ta dernière année le plus gros apprentissage que tu as fait? Ça a été quoi les gros obstacles? Qu'est-ce qui t'a affecté le plus? Qu'est-ce que tu as adoré dans ton parcours? Tout le monde aime ça. Tout le monde a ces aspects-là. Peu importe ton statut social ou économique dans la société, on a tous ces aspects-là de tu as des peurs, tu as des faiblesses, tu as des forces, tu as des choses que tu as aimées, tu as un parcours, tu as un bagage. Fait que pose des questions sur ça.
Ça ressemble un peu aux questions qu'on pose dans le podcast, dans le fond, le truc d'obstacle. Ouais. Fait que si je nous redirige par rapport à ça, ça a quoi été? Parce que tu as parlé qu'il y avait j'oublie le mot en français, mais un roller coaster, right, depuis les dernières années avec le fondement de l'entreprise et tout. Fait que quel a été le point bas? Comment tu t'en es ressorti? Qu'est-ce que tu en as appris? Là, on peut devenir personnel.
Mon point bas, il n'est pas tant bas que ça, très honnêtement, dans le sens où c'est beaucoup par rapport à nos propres attentes, les attentes qu'on a de nous-mêmes. Fait que moi, mon point bas, c'était pas une question de j'étais sur le bord de la faillite personnelle, t'sais, comme certains entrepreneurs populaires au Québec ont déjà vécu. J'étais pas non plus j'avais pas un de mes proches qui est décédé ou quelque chose comme ça. T'sais, j'ai pas eu de gros obstacles comme ça. Mais définitivement, un des obstacles que j'ai eu, c'était passer d'un statut d'employé où tu te fais dire quoi faire, puis tout ce que tu as besoin de faire, c'est exécuter, à un statut où il faut que tu trouves quoi faire, faut que tu planifies ce que tu vas faire, puis après ça, il faut que tu le fasses. Puis tu es garoché, oui, dans ces trois affaires-là, mais tu es garoché aussi dans, OK, mais après ça, tout ce que je vais faire, comment je vais faire pour me faire connaître, pour networker, pour faire grandir un petit peu l'entreprise. C'est plus une job, là. En fait, c'est une phrase qui a été dite au podcast Hypercroissance, justement, il y a quelques semaines que j'écoutais. Il disait, quand tu es propriétaire d'une entreprise, c'est plus une job, c'est une responsabilité. Et ça, c'est une autre histoire complètement. Fait que je pense que c'est ce qui m'a grugé énormément d'énergie, c'est ça. Qu'est-ce que je fais?
C'est de la transition.
La transition, oui, mais tout. Tu sais, te poser trop de questions, ça te mène à une paralysie un petit peu de l'action.
Plongé dans le néant, dans le fond. Ouais. Tu dois figure out quoi faire, puis tu n'as aucun chemin qui est... Parce que moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est beaucoup dans l'entrepreneuriat, le défi. C'est pas nécessairement comme un point bas, comme tu dis, mais c'est une petite affaire, le fait que tu sais pas c'est quoi le bon chemin à prendre. Il y en a 50 que tu peux essayer d'employer. Tu dois choisir, selon toi, ce qui semble meilleur. Tu dois mettre en place une stratégie de « OK, ben voici comment je vais m'y prendre. » Puis après, tous les jours, tu dois... show up, tu dois pas arrêter d'avoir la persistance d'être là, puis continuer à essayer de mettre tes efforts, puis ça se peut que les 49 premières choses que tu essaies, ça mène à rien. Mais un entrepreneur va réussir à sa 50e, quelqu'un qui a pas l'esprit, ben va s'arrêter à numéro 34 en se disant que c'est pas fait pour lui, right?
Ouais. Tu sais, c'est beaucoup, je pose ça comme question, en fait, je pose ça comme question à des entrepreneurs plus des entrepreneurs qui ont une entreprise disons, pas tant développés, des entrepreneurs qui sont à leur première, deuxième année d'entrepreneuriat. Puis je leur pose comme question des fois, surtout ceux-là qui font du développement ou des choses plus justement en arrière d'un écran, je leur pose comme question, est-ce que tu fais 60 heures, mettons, ou 40 heures, ou peu importe le nombre d'heures, productif, ou tu fais 60 heures derrière ton ordi? Parce qu'il y a une grosse différence.
C'est quoi la différence?
Honnêtement, la grosse différence, c'est que premièrement, être productif 40 heures, c'est difficile.
Okay.
Je dis productif. Là.
Productif, définissons. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si tu prends chacune des heures que tu as faites dans ta semaine, puis tu t'es dit, oui, dans cette heure-là, j'ai accompli quelque chose, tu as été productif.
Okay. C'est tough, ça, quand tu sais pas quoi faire.
J'ai jamais réussi à faire ça. Pas 40 heures, oublie ça. Honnêtement, en général, juste te poser des questions, faire ta planification de ce que tu veux faire, puis pourquoi, puis est-ce que c'est le bon move, juste ça, là, t'es...
Mais pourquoi c'est pas productif, ça? Dans ma tête, il me semble que c'est productif.
Tu produis pas nécessairement de valeur. T'as posé des questions.
Toute la préparation.
T'as posé des questions, apprendre, puis comprendre un petit peu c'est quoi le bon move, puis la préparation derrière. Ça a de la valeur pour qu'est-ce que tu vas exécuter après.
Indirect.
Mais... pour réellement rentrer des revenus dans l'entreprise et tout, c'est le fameux, quand tu as une gigantesque multinationale, c'est le fameux, on a des board meetings pendant des heures et des heures et des heures et des heures, puis ces dirigeants-là, ils sont payés des milliers, millions de dollars par année à juste discuter entre eux autres puis penser. Mais quand tu es quand une business multinationale, tes revenus, ils sont là, là. Après ça, c'est d'optimiser, c'est de faire croître ces revenus-là, mais tes revenus, ils sont là, là. Toi, ta job est assurée. Là. Quand tu n'as pas encore de clients, quand tu startes en entrepreneuriat, quand tu commences à générer des revenus puis tu as de la misère à te payer, c'est pas dans le même game. Il faut que tu produises quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose de tangible qui va ramener de la valeur parce que juste penser, c'est pas le bon move. Non, mais c'est aussi simple pas que ça. Non, ça c'est qu'il y a, écoute, il y a énormément de gens qui se lancent en entreprise, puis j'en vois aussi dans des groupes Facebook d'entrepreneuriat sur Facebook. Il y en a beaucoup qui ont énormément de misère. Ils se lancent en entrepreneuriat, ils se rendent compte que finalement, ils ont perdu énormément d'argent parce qu'ils voulaient essayer, ils voulaient le faire, mais ça n'a juste pas marché. Tu sais, le problème, c'était-tu l'entrepreneur, c'était-tu la démarche, c'était-tu le créneau dans lequel ils ont essayé de se lancer, c'était-tu l'approche qu'ils ont pris justement pour aller chercher des clients ou pas, mais... honnêtement, on ne saura jamais. C'est juste la gigantesque majorité des entreprises ne passent pas la marque des 5 ans. Je pense que c'est 80% qui ferlent avant 5 ans. Ouais. Puis je pense que c'est comme encore plus qui ferlent en dedans de 10 ans. Déjà, être en entrepreneuriat 10 ans, c'est une bonne chose.
C'est quand même, ouais, c'est quand même solide, là. C'est ça, c'est assez rare, là.
Mais sur ceux-là qui passent la barre des 5 ans, moi, c'est ça que je me pose comme question. Sur ceux-là qui passent la barre des 5 ans, combien passent la barre des 5 ans de manière... successful, je vais dire. De ça manière, quoi, ils ça? Peuvent se payer, puis ils sont à l'aise, puis ça fonctionne. Parce qu'il y en a qui passent la barre des 5 ans. C'est
qui meurent, dans le fond.
Oui, ouais, parce qu'il y en a qui passent la barre des 5 ans juste à s'acharner, là, puis ils ont une vie
misérable
parce qu'ils ne sont pas capables de se payer, ils ne sont pas capables de faire de l'argent, puis ils survivent là avec des miettes de pain. Là. Puis leur entreprise, elle survit, mais à un moment donné, il faut que tu coupes l'idée. Là.
Ouais, c'est ça,
la différence entre, je pense, on discutait tantôt de. Avoir une idée versus régler un problème. Il y en a qui sont tellement attachés à leur idée, mais si ton idée, elle règle pas de problème, elle vaut rien. Ouais. Tu vas voir de quoi d'autre. Sois obsédé par les problèmes que tu peux régler, pas par les idées que tu as. J'en entends encore des gens qui sont parfois même très éduqués et très successful, puis ils trouvent une idée, puis ils veulent pas la dire à personne, là, parce qu'ils se disent « mon idée, elle vaut de l'or, puis n'importe mais qui non. va la reproduire. » Et ça, là, ça a été démontré maintes et maintes fois, là. Ça ne veut plus rien dire. Là. Développer une application, développer un produit, une entreprise, ça se fait autour de tes clients. Ça se fait pas dans ta tête.
On va redire la phrase parce que j'ai beaucoup aimé ça. Sois obsédé par les problèmes que tu peux régler et non les idées que tu as. Ça, je pense que c'est la phrase clé pour les entrepreneurs. Si vous retenez une chose aujourd'hui, retenez ça parce que ça, moi, ça vient de me marquer. Je ne sais pas pour toi, Charles.
Ouais, non, pareillement. Là, puis je pense que t'sais, pour nous autres, qui commence un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat et tout. On a des projets sur le
podcast.
Oh, c'est ça, podcast et tout. Mais, c'est ça, je pense que ça pose une question parce qu'on a une autre, comme startup, une autre entreprise qu'on fait bref, des vêtements de sport à base de matériaux réutilisables. Bref.
Okay, puis, nice. Charles, dis pas l'idée.
Non, ça, puis en effet, que, tu sais, j'avoue qu'on peut être facilement emporté par l'idée sans nécessairement comme. Être très, très terre-à-terre.
Mm-hmm.
Fait que, non, ça c'est excellent. Puis je pense que aussi dans le milieu du consulting comme que tu es, je pense que ça, c'est encore d'autant plus vrai que, justement, tu focuses parce qu'essentiellement, c'est ça ton boulot, c'est ça ta quête, en fait. Puis quand tu es parti dans l'entreprise, est-ce que tu avais une vision, justement? Est-ce que tu avais un aspect plus idée et plus intellectuel, comme tu disais, ou est-ce que tu avais commencé par dire, ben écoute, moi, je vais pour régler des problèmes dans mon créneau?
Ben, à la base, je voulais explorer la consultation. J'avais des amis qui faisaient de la consultation. Ils faisaient des contrats, ils aimaient ça, ils trouvaient ça le fun. C'est comme un sideline en plus de la job. Fait que je veux pas, ils retiraient des revenus de ça. Je me disais, intéressant, je vais explorer ça. Puis ça a vraiment donné avec le timing, avec Morgan Stanley, je me suis dit, ben regarde, maintenant que j'ai plus d'emploi, autant me starter temps plein dans de la consultation. Ouais. bon, ça a été une aventure différente que ce que j'aurais pensé, mais non, c'est ça l'avantage de faire de la consultation. Tu n'as pas nécessairement besoin d'une idée ou d'un produit, puis c'est énormément plus facile. Donc, tu sais, je veux pas, disons, rendre mon entreprise ou moi-même, comment je peux dire? Je ne veux pas montrer ça sous un œil péjoratif, mais la consultation, c'est le easy way, mettons, en entrepreneuriat. C'est la manière de dire, ben, tu n'as pas besoin de développer un produit avec des investisseurs, des clients, de l'equity, right?
Faut juste régler un problème.
C'est ça. Tu as juste besoin d'aller vers quelqu'un, faire, regarde, moi, j'ai de l'expertise. Toi, tu as le problème, puis je peux t'aider si tu veux.
Ouais.
Et ça, là, c'est quand même facile, on va se le dire. Moi, je regarde des entrepreneurs. Je serais très intéressé un jour à développer des produits, honnêtement, puis vraiment avoir un produit à moi. Mais je me dis, pas tout seul. C'est un autre game complètement. C'est un côté d'entrepreneuriat extrêmement plus difficile. Honnêtement, là, c'est
parce que j'imagine inimaginable. Que pour un consultant, le principal problème, ben, c'est vraiment de figure out c'est quoi le problème avec ton expertise qui est en ce moment en demande d'être réglé. Puis ensuite, t'arranger pour avoir une façon de te faire connaître. Puis j'aimerais lier un sujet qu'on a comme un peu touché, mais pas vraiment. Et là, je veux le tacler dans un certain sens.
Ouais.
Et je pense que toi aussi, la romantisation de l'entrepreneur. Moi, je pense à ça, être entrepreneur, c'est séduisant, non? Tu sais, tu penses à ça, je suis entrepreneur, je construis quelque chose. Par contre, il y en a qui pensent, et ça, j'ai vu ça dans le film The Social Network, un mec qui racontait à une fille, ouais, je suis entrepreneur, puis là, elle a regardé, okay, t'es au chômage. Je suis comme, non, je dirais pas ça. Tu dirais quoi? Ben, je dirais que je suis entrepreneur. Fait que, c'est quoi la romantisation de l'entrepreneuriat? C'est quoi comment toi, tu vois ça? Puis c'est quoi le danger de ça? Parce que c'est vrai que c'est séduisant comme aspect, mais c'est pas nécessairement toujours une bonne chose.
Définitivement, non, c'est vraiment pas toujours une bonne chose. Écoute, la romantisation de l'entrepreneuriat, tu sais, moi, quand les gens me parlent d'entrepreneuriat maintenant, mettons, là, je commence à avoir du succès, des clients, mes choses vont bien, c'est merveilleux. Moi, je suis super heureux, puis j'adore ce que je fais. Mais pour les gens qui me disent « Comment t'as fait? » Puis qui me disent « Ah, waouh, on dirait que t'as un talent inné. » Tu sais, quand je parle de socialiser, aller vers les gens, tu sais, te faire connaître, aller à des événements, les gens font comme « Oh my God, comment tu fais tout ça? » Puis tout. Ben justement, c'est pas pour tout le monde. Straight up, l'entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. C'est un cheminement personnel, je veux dire, difficile. C'est des skills que tu veux pas développer ou que tu te dis que tu n'auras pas besoin. Puis tu te fais « Ah, ben maintenant, j'en ai besoin, fait que je vais le faire. » Tu sais, on parle de, quand tu es à ton compte tout seul, on parle de marketing, on parle de, justement, médias sociaux, on parle d'aller vers les gens, on parle d'être bon dans tes compétences puis de continuer à développer tes compétences, sinon ta valeur, elle évolue pas avec toi. On parle de manière de scaler avec tes compétences. Tu sais, charger à l'heure en tant que consultant, c'est bien beau, mais à un moment donné, 168 heures dans ta semaine, à moins que tu fasses 168 heures de job, puis que tu manges pas, tu vas pas aux toilettes, tu dors pas, tu vas caper quelque part. Fait que là, c'est de trouver des manières de soumissionner à la valeur ou des choses comme ça. Fait que c'est énormément de processus de pensée, énormément de réflexion que les gens peuvent avoir dans leur vie personnelle, mais qui n'ont pas nécessairement. Puis quand tu es en entrepreneuriat, tu n'as pas le choix de les avoir, ça. Fait qu'honnêtement, je pense que c'est un petit peu pour ça, quand on parle de romantisation de l'entrepreneuriat, tu sais, moi, je dis, l'entrepreneuriat, c'est chiant. Straight up.
Accepte ça, puis ensuite,
ouais, je connais personne, honnêtement, en entrepreneuriat, qui m'ont dit que l'entrepreneuriat, là, c'était tout rose, puis que tout était magnifique, là. Loin de là, extrêmement loin de ça. Puis je pense que ça fait un beau pont avec une recherche qui avait été faite il y a quelques années sur la condition de la santé mentale en entrepreneuriat. Et la gigantesque majorité des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat puis qui sont devenus entrepreneurs ont énormément de traits dépressifs et sont très proches en général de tout ce qui est la dépression. Puis je crois, tu sais, moi, si j'avais un take à prendre sur ça, je pense que c'est justement tout l'optimisme d'avoir un impact dans le monde. Puis là, quand tu es confronté au fait que tu n'atteins pas les objectifs d'impact que tu veux avoir, tu n'as peut-être pas l'impact que tu veux avoir, faut que tu te donne ton propre feedback pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu changes. Tu es tout le temps en constante remise en question. Tu es tout le temps à dire, est-ce que je fais la bonne chose pour les bonnes raisons? Est-ce que j'aime ça? Bordel, des fois, c'est est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire?
C'est un fardeau
honnêtement,
constant.
Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'est toujours une question que tu poses. Tu sais. Ouais. Puis là, après ça, c'est là que tu peux te justifier à, ben, je préfère-tu faire ça, une job 40 heures à un écran? OK, ouais, moi, n'importe quand, je fais ça. Tu sais. Mais là, moi, mon fun, je le trouve ailleurs. Je le trouve dans, justement, rencontrer des gens. Ouais. Tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux.
C'est drôle, hein, parce qu'il y a
on dirait, puis je t'en ai parlé, ça, quand on développait, par exemple, le podcast Ensemble et tout, il y a comme des petits moments de, je sais pas moi, où est-ce que tu sens l'optimisme, ouais, ouais. Tu sens le « wow, on est rendu relativement loin d'où on a commencé, et on sent le potentiel ». Mais la plupart du temps, il y a beaucoup justement de ce qu'on dit, c'est « Ah, ben faut faire ça, faut faire ça. Ah, telle affaire, on n'a pas apprise, ben maintenant, il faut l'apprendre parce qu'on doit faire du montage. Mm-hmm. » Ouais, ainsi de suite. Fait que c'est constamment justement faire face au fait que « OK, ben notre méthode à faire est probablement pas très bonne. Comment on peut améliorer? Comment on peut se remettre en question encore? » Fait que c'est drôle parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs se partent avec une idée un peu plus séduisante, puis tu deviens entrepreneur. Quand tu arrives dans les moments tough, si tu restes, t'es entrepreneur. Si tu restes pas, ben peut-être c'est pas fait pour toi.
Puis en même temps, ce que tu disais, c'était ce que tu mentionnais au début, par rapport à comme aimer le chemin, aimer l'espèce de parcours, et non nécessairement se mettre des objectifs. Je pense que ça pourrait être une piste de solution pour éviter de tomber dans cette espèce de cycle dépressif là de l'entrepreneuriat. Si tu veux, où est-ce que t'arrives tout le temps, t'es comme c'est l'affaire, c'est lourd, c'est pas facile. Ouais. Mais actuellement, à quoi ressemble ta semaine de travail, par exemple? Même une journée de travail, toi qui es entrepreneur, puis c'est ça ta seule occupation actuellement?
Oui, c'est ma seule occupation actuellement. Écoute, ma semaine de travail, c'est assez standard, là. Moi, je suis pas le genre d'entrepreneur qui veut faire 80 heures, là, dans le sens où, encore là, se lancer en entrepreneuriat, il faut que tu sois conscient des limites que tu veux te mettre, mais pas juste une question de limites. Ce n'est pas des limitations là, que je me mets personnellement. C'est plus, qu'est-ce que tu veux vivre comme vie? C'est un rythme de vie, le lifestyle. C'est toi qui es en contrôle de ça à partir du moment que tu t'es lancé. T'sais. Fait que moi, je suis un gars, écoute, 40 heures. Si j'ai besoin d'en avoir plus, j'en ai plus, puis j'ai pas de problème. Mais je ne mets pas une pression pour en faire plus. T'sais. Fait que, en général, le matin, je fais du travail client. Tu sais, souvent, 5 heures, mettons, à tous les matins. 7, moi, je commence tôt, je finis tôt. J'ai tout le temps fait ça. Même dans mes stages à l'université, je faisais ça. J'adorais ça parce que tu finis à 3 heures, tu as comme une deuxième journée dans ta journée.
Ouais, ouais.
Tu vas t'entraîner, faire des activités, etc. Tu sors au parc, peu importe, quand c'est l'été, mettons. Fait que, travail de client le matin, mettons, que ce soit programmation, que ce soit justement automatisation ou encore les données. Puis après ça, en après-midi, souvent de 1 à 3 ou de midi à 3, mettons, plus du développement business, réseaux sociaux, justement événementiel, podcast, chambre de commerce, etc. Voir qu'est-ce que je peux faire. T'sais. Fait que prochainement, j'ai une conférence qui s'en vient ou une présentation qui s'en vient d'environ une trentaine de minutes sur tout ce qui est transformation numérique 4.0 pour les entreprises en partenariat avec la chambre de commerce. Fait que c'est ce que je fais plus l'après-midi en général. À 3 heures, ben là, on rentre plus dans ma vie personnelle. Je m'entraîne pour avoir la coupure entre la job et la vie personnelle. Fait que moi, je m'entraîne très après la job tout le temps.
C'est comme ta transition.
Ouais.
J'aime ça.
Ouais. Je le conseille fortement à en fait, tout le monde là, d'avoir une transition entre plusieurs heures de travail, que ce soit la journée de travail ou une journée avec des enfants ou peu importe. T'sais, d'avoir une transition solide, une transition... Là,
C'est beau ça. Excuse de t'interrompre, mais ça. Non, vas-y. Parce qu'on parlait beaucoup avec Yann Perrault d'être capable de décrocher.
Mm-hmm.
Ça doit faciliter le décrochage. Ah, parce que si tu te dis ma période de transition qui dit que je passe à ma vie personnelle, c'est tel moment tous les jours, puis tu as cette mentalité-là, tu arrives à ton entraînement, tu le fais, ça doit être beaucoup plus facile après de lâcher prise sur toute la job que tu as, puis surtout pour un entrepreneur qui stresse tout le temps, qui a le fardeau constant, c'est essentiel.
Oui, définitivement. Tu as cette coupure-là, pas juste mentale, mais physique aussi. Ton corps, il travaille pendant, disons, je m'entraîne 45 minutes, 1 heure. Après ça, là, la job, c'est pas ça que je pense. Là, je suis fatigué, je viens de m'entraîner, je regarde ma blonde qui revient de travailler, on se fait souper, tu profites, des fois, on joue à des jeux de société. Je pense plus à la job le soir après m'entraîner, oublie ça. Là. J'ai cette coupure-là très facile, mais justement, parce que j'ai développé un petit peu l'outil d'avoir cette coupure physique. Faut vraiment, dans ma tête, il faut vraiment que ça soit physique. Il y en a que leur physique, c'est le 20 minutes. En fait, il y en a qui interprètent pas ça comme ça, mais il y en a qui devraient, je pense, faire ça, surtout si tu as une famille. Avoir la coupure physique entre la job et ta vie familiale, le 20 minutes dans ton char, ben c'est peut-être ça, ta transition physique. Que là, tu penses plus à job, tu peux écouter un podcast, tu peux méditer dans ton char si tu veux, pas les yeux fermés idéalement, ce serait une bonne idée. Mais tu sais, des coupures physiques entre la job et le restant de ta vie, c'est important parce que je pense que c'est ça qui offre le plus de facilité. Juste finir la job puis passer à autre chose, c'est comme si la vie entière devenait une job. En tout cas, moi, je trouve. Là, je sais que quand je m'entraîne pas après le travail, le soir, je me pose plein de questions, je continue à travailler dans ma tête. Non, ça, là, honnêtement, c'est pas tant agréable.
La vie entière devient un job si tu n'as pas cette coupure-là. Ouais. C'est vrai, ça. C'est un bon. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont, sans doute, en faisant l'avocat du diable un peu, qui vont dire ouais, mais ça, je suis pas capable parce que, je sais pas moi, je dois retravailler le soir après match, ou tu sais, surtout dans le milieu professionnel.
C'est le boss qui l'exige. C'est j'ai pas le choix.
Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Un petit peu de déresponsabilisation à ce niveau-là. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui va se dire qu'ils peuvent pas le faire. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde, même avec une job qui est moins autonome, ou qui ont moins la possibilité d'être autonome
que toi? Ouais, c'est sûr que dans mon domaine, j'ai énormément de flexibilité sur pratiquement tous les aspects de ma vie. Fait que je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a les mêmes, encore là, les mêmes obstacles, mêmes priorités.
Mais comme tu dis, la ride d'auto et tous ces trucs-là, c'est des trucs que
tu c'est des choses qu'on pense pas. C'est des petits détails qu'on pense pas. Tu sais, je peux pas le faire, je peux pas me le permettre. Je pense que ça revient un petit peu aux mêmes affaires que j'ai pas le temps de s'entraîner, mettons, les gens. Mais s'entraîner, on parle pas de faire une heure par jour. Là. Des fois, 5-10 minutes, c'est parfait. Là, puis si t'as pas 5-10 minutes, c'est parce qu'honnêtement, check combien de temps tu es sur ton ciel par jour. C'est en général, là, ton 5-10 minutes, il est là quelque part.
il est
quelque part, trouve-le, mais il est là. Ouais. Quand tu lis des choses, on trouve les livres d'entrepreneurs extrêmement productifs, extrêmement exigeants. C'est ainsi que je lis Can't Hurt Me de David Goggins.
Mm-hmm. Ah, tu parles d'exigence.
Ouais, c'est ça. T'sais. Moi, je regarde ce gars-là, je fais jamais dans 100 ans. Honnêtement, là, genre, je trouve ça inspirant, je trouve ça impressionnant, mais jamais dans 100 ans, je ferais ce qu'il a fait. J'ai pas ce cran-là. Ça m'intéresse pas, je veux rien savoir.
Tu brises pas la glace d'un lac pour aller te baigner?
Non,
honnêtement. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question sérieusement pourquoi est-ce que ce gars-là fait ça? Moi, c'est une affaire que je comprends pas.
Non, mais il a un passé sombre.
Ouais, sombre.
Et il garde... OK, je vais essayer de faire une petite psychoanalyse.
Ouais, ben oui,
David Goggins, selon ce que je connais des Reels Instagram.
Est-ce que tu as lu son livre?
Non, mais j'ai écouté quelques podcasts où il parlait de son personnel. Okay. Tu me corrigeras, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il garde les démons dans sa tête loin et les conquérir en quelque sorte en s'infligeant toute cette douleur.
Mm-hmm. Grosso modo, oui. Je veux dire, tu sais, pour offrir un petit peu plus de contexte, je pense, quand on dit qu'il y a un passé sombre, très, très sombre, tu sais, c'est quand il était jeune, il était battu par son père. Right? Toute la famille était sous le joug un petit peu de son père pendant plusieurs années, là. Puis il a vu son père battre sa mère aussi. Il était un petit peu exploité. Son père était un homme d'affaires quand même influent puis très populaire. Je me souviens plus dans quelle ville, malheureusement, il est né, mais il y avait une entreprise là, de... Tu sais, le skating, là, dans les années 70.
Oh
là.
My God, les roller parks avec ouais, le disco.
C'est ça,
là.
C'est exactement ça. Fait que son père, il avait ça, puis il exploitait un petit peu sa famille dans les postes pour le roller park. Tu sais, puis ça ne coûtait rien, c'était sa famille. Puis après ça, il arrivait à la maison, tu sais, puis il avait de l'air bien heureux au roller park. Toute la famille avait de l'air bien heureux, mais il arrivait à la maison, puis tu sais, il battait les enfants, battait la mère. Il a déjà menacé David Goggins, justement, quand il était jeune avec son gun. Le gars avait un revolver sur lui ou dans son bureau. Tu sais, c'est comme, quand tu as un passé comme ça, tu es battu jusqu'à je pense que c'était jusqu'à 12 ans ou 14 ans qu'il a quitté la maison familiale avec sa mère à ce moment-là, puis il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien à leur nom en tant que tel. À ce moment-là, la mère de David était sous le joug entier de son père. Aucun argent, aucun avoir à son nom. Fait qu'ils sont comme partis de rien, partis de zéro. Le gars, communauté noire, right? David Goggins est noir. Fait qu'énormément de souffrance à ce niveau-là, énormément de difficultés. Puis là, on voit tout l'apprentissage puis le développement qu'il a fait à l'école. Fait que pas nécessairement des gangs de rue, mais tu sais, c'était pas nécessairement mieux que... C'était
difficile.
Fait que très sombre. Puis là, ben, en vieillissant, il avait comme encore rien un petit peu à son nom. Puis il essayait de trouver une inspiration. Puis ce qu'il a trouvé, c'est l'armée. Puis c'est d'essayer de se démarquer. Puis de se démarquer. Puis de combattre les démons, comme Paul, tu disais. Fait que
faire preuve qu'il est indestructible.
Ouais, puis après, ça, c'est un petit peu ça qu'il a fait. Là, c'est-à-dire.
C'est prouvé.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que. En tout cas. Ça a certainement marché, mais moi, c'est son mental qui me bouleverse parce que, tu sais, comment est-ce que tu peux t'infliger autant de... Quelqu'un nous appelle?
Je suis désolé pour cette interruption. François Delorme, au revoir.
Ah, c'est François Delorme. OK. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas...
J'ai fermé Teams, je sais pas pourquoi. Pardonnez cette interruption, tout le monde. Quittez. Voilà.
Quittez Skype.
Ah non, je pense que c'était Teams. Le son, par contre, je sais pourquoi tu dis ça, c'était le son de Skype, mais Ils ont pas.
Qu'est-ce qu'on est advenu derrière de Skype? C'est où?
Ah non, non, on va pas partir là-dessus.
Non,
on parle...
non, okay, excuse-moi.
Excuse-moi, Charles.
C'est vrai, il y a pas de parler de ça.
Non, on va pas parler de Skype.
Ok, c'est bon.
Mais tu sais, pour venir à David Goggins, il y en a qui, toute leur vie, c'est ça qu'ils essaient de faire, se prouver. Lui, il est allé bien au-delà de ce que les gens y vont, mais c'est ça, je pense que ça montre un petit peu l'étendue de.
Ouais.
De sa jeunesse et des difficultés qu'il a rencontrées. Mais il y en a qui vivent que pour ça, là, se prouver aux autres. On est dans une société comme ça, on parle encore des réseaux sociaux. Pis,
ouais.
Bon, pis c'est facile de mettre la faute sur la société, mais t'sais, se prouver, montrer qu'on est bon, montrer qu'on réussit.
Qu'on a une belle vie.
Ben oui, c'est Instagram. Ça. T'sais. Honnêtement, authentique, honnêteté, parle aux gens, montre tes difficultés, montre une certaine vulnérabilité, puis les gens, tu connectes beaucoup plus.
C'est les principes de l'entrepreneur, de la réussite. Authentique, honnêteté, monter...
J'en ai plusieurs, des principes, des frameworks qui permettent de réussir dans plusieurs aspects. Très honnêtement, là.
On a une question là-dessus, veux-tu?
Non, vas-y.
OK, ben dans le fond, allons-y, c'est quoi tes principes directifs qui te guident dans ta vie? Si on se lance là-dessus, là,
ouais.
Vas-y.
Mon Dieu, guide directif qui me...
Ou ce que tu parlais.
Oui, c'est ce que tu parlais. Tu disais des certains principes. On en a vu quelques-uns.
Oui, oui. Ben, dans la vie, c'est assez large, là, je veux dire. Mettons qu'on prend un aspect en particulier. Que moi, j'ai... comment je peux dire? J'ai toujours réussi relativement bien à l'école. J'ai jamais eu de difficultés, honnêtement. Puis j'avais pas besoin d'étudier ou de me forcer, même à l'université. Fait que je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Puis honnêtement, ça a fait en sorte de... I guess, développer un certain niveau de, comment je peux dire, complexe de supériorité. T'sais, je viens d'un background où, honnêtement, j'étais jeune, là, j'étais fendant. les gens autour de moi, j'étais comme « fuck tout le monde, il n'y a personne à mon niveau ». Honnêtement, là, j'étais vraiment là. Puis c'était une manière, I guess, de me protéger de d'autres choses dans ma vie, t'sais, d'autres démons, comme un petit peu, ben, pas comme un petit peu David, mais tout le monde a leurs démons. T'sais. Mm. Fait que c'était une manière de me protéger de ça. Fait que, partir de ça, puis de se poser la question, OK, comment je fais pour parler à des gens? Parce que j'aimais pas ça, parler à des gens. Je me disais, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute.
Tu ne veux pas te mêler aux paysans
que,
comme...
Ah ouais.
Il n'y avait pas de parler à l'associé ou peu importe.
Ben, c'est que j'avais de la misère à m'entendre avec 99% des gens. Je leur parlais, puis moi, je disais, j'aime pas ça, le small talk. Je me disais, j'aimais juste pas ça, le small talk. Je parlais aux gens, puis je me disais, t'es donc ben pas intéressant, man. Il se passe donc ben rien dans ta vie. Puis partir de ça, puis de se dire, là, éventuellement, tu grandis, tu vieillis, tu te dis, ah, ça serait le fun de me trouver une blonde, tu sais.
D'avoir des amis.
D'avoir des amis. Mais tu sais, j'avais des amis proches, mais j'ai jamais été la personne avec énormément d'amis.
Mm-hmm.
Puis moi, j'avais une difficulté personnelle qui était vraiment au niveau de la solitude. J'avais beaucoup de misère avec la solitude, beaucoup de misère à, pas nécessairement à vivre seul, mais tu sais, je me sentais seul.
Mm-hmm.
Right? Surtout en informatique, chez, mettons, ça fait pas très longtemps de ça, mettons, chez Morgan Stanley, je pouvais passer 40 heures par semaine puis parler à personne.
OK.
Puis je travaillais à distance. Fait que quand tu sors pas de chez vous, tu parles pas. Mes amis, c'est pas des sorteurs, c'est pas du monde qui vont me parler à tous les jours, qui vont me texter ou quoi que ce soit. C'est comme on va se voir une fois par mois puis on va se jaser gros, mais sinon, tu sais, on interagit plus ou moins. C'est des amis extrêmement proches, mais j'ai pas cette relation-là, disons, ce type de relation-là avec mes amis comme ça, de se texter tout le temps tous les jours. On s'envoie des mèmes, par contre. Mais. Fait que partir de cette solitude-là, puis se dire comment je fais pour rencontrer des gens, ben là, quand tu te poses encore une fois les bonnes questions, là, tu développes des frameworks. Puis là, le framework que j'étais arrivé, en fait, à ce moment-là, c'était, ben, premièrement, tu sais, les étapes, j'avais 4 étapes. Je vais essayer de m'en souvenir, là, from the top of my head. La première étape, c'est le bon mindset, right? Pourquoi tu veux rencontrer des gens? Tu sais, il y en a qui ont énormément de misère avec le dating, énormément de misère avec rencontrer des gens, développer leur réseau. Pourquoi tu veux rencontrer des gens? C'est comme dans la chambre de commerce, tu vas pas là pour faire de la vente, tu vas là pour t'intéresser aux gens. Fait que si tu as le bon mindset, merveilleux. Après ça, va dans des endroits où tu as des similarités, des endroits qui tu as des points en commun avec les autres personnes qui sont là. Ça, honnêtement, là, quand tu vois beaucoup d'amitiés se former dans des équipes de badminton, des équipes de sport universitaire, des équipes d'activités au civil, la guitare, peu importe, aller au parc Blanchard, tu sais, parce qu'il y a des similarités. Les gens, ils développent justement naturellement une amitié parce que tu as plein de points en commun avec l'autre. Fait que, tu sais, mets-toi dans des settings, des environnements que tu as des similarités avec l'autre personne. Après ça, mon Dieu, je vais avoir de la misère à trouver les deux autres, je pense. Mais le troisième, c'était quelque chose comme... Ah boy. Faudrait... je serais pas capable de le retrouver.
Mais moi, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que tu as été capable de changer complètement. Parce que je m'excuse, mais moi, c'était pas du tout ça l'impression que. Tu sais, la première impression quand on s'est rencontrés et tout, c'est pas ça du tout l'impression que j'avais de toi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tu avais mentionné ou peu importe, que dans la vie, tout s'apprend.
Ouais.
Tu es capable de te changer. Puis je pense que tu as changé qui tu étais ou comment est-ce que tu interagissais du moins. Mais ça, je trouve ça fascinant parce que on dirait que, je sais pas, moi, les personnes, comme tu disais, j'entends qui sont fendants, tu dis quoi de même, on dirait qu'ils vont être de même toute leur vie, mais.
Tout s'apprend.
Ben, c'est pas ton cas, là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as dit que tout s'apprend?
Ben, déjà, merci, c'est pas mon cas, je suis content de l'apprendre.
Oui.
Ben, surtout un entrepreneur comme toi, tu parlais de la chambre de commerce, moi aussi, je me disais ça, là, tu devais faire du small talk. Fait.
Ben. Oui. C'est déjà, il te faut le désir de changer puis d'apprendre. Puis il faut que tu valorises les raisons qui fait que tu veux changer puis apprendre. Moi, ça part d'une, je vais dire, pas une frustration, mais ça part d'une blessure, right? Tout ce qui est la solitude, c'était extrêmement difficile. Je trouvais ça difficile. J'avais de la misère. Je lisais sur ça. J'essayais de comprendre. J'essayais de mieux vivre avec ça. Puis c'est ce qui m'a poussé un petit peu à me dire, regarde, à un moment donné, t'as pas le choix, il faut que tu ailles vers les gens, puis il faut que tu t'intéresses aux gens, puis il faut que tu trouves des gens qui t'intéressent aussi. C'est pas la faute des autres, là, c'est ta faute. Là. Je veux dire, les gens qui vivent une vie, je veux dire, misérable, ou les gens qui ont des difficultés dans leur vie, la majorité du temps, c'est pas nécessairement la situation, mettons, qui a un impact sur eux, c'est comment eux interprètent la situation. Un exemple de ça que je trouvais merveilleux, c'était... mon Dieu, un maître spirituel indien qui parlait sur un podcast d'entrepreneurs aux US, puis il disait à l'animateur du podcast, il disait, si je t'envoie chier en anglais, puis tu me comprends, right, ça va te faire quelque chose, right, on s'entend. Mais si je t'envoie chier en indien avec un gros sourire, puis que tu comprends zéro de ce que je viens de dire, tu vas probablement être heureux. Ben, ça démontre vraiment bien à quel point c'est pas la situation qui a un impact sur nous, mais notre interprétation de cette situation-là. Puis honnêtement, je pense de prendre ça en compte puis se dire que tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir d'apprendre ce que tu veux apprendre pour changer tes circonstances, changer ta situation, changer tes conditions de vie. Ben, rendu là, c'est juste à toi de le faire puis trouver les outils, trouver un mentor, lire des livres, peu importe.
Tu remets les choses dans ta zone de contrôle.
Oui, ben oui, définitivement. Puis là, on rentre dans tout l'aspect, OK, ben se poser les bonnes questions, puis comment tu commences par ça, tu sais. Fait que là, on est dans le sujet de solitude puis de sociale, parce que c'était probablement ma grosse difficulté personnelle, je dois dire, dans les dernières années. Fait que, tu sais, pour l'auditoire, s'il y en a qui ont de la misère, mettons, tu t'en vas dehors, commence par sourire à quelqu'un. Dis pas un mot. Dis-moi, j'étais un coureur, right? J'allais courir, puis je me disais, si je pouvais juste comme croiser des coureurs puis leur sourire, aller de la main, leur dire salut. Tu commences par ça. J'avais commencé par ça à Montréal, l'été 2023, l'été 2022, excuse. Fait que j'étais à Montréal pour un stage, justement, puis je me disais, je m'en courais au Mont-Tremblant, au Mont... Mont-Royal, excusez. Au Mont-Royal, puis je fais juste dire salut à des gens sans dire un mot, leur sourire, puis leur regarder dans les yeux. Right? C'était pas plus que ça, là. Mais moi, j'étais comme, ouais, ça me stressait pas, mais je me disais...
Ça prend quelque chose, là.
C'est ça. Il y avait un... C'est ça. Ça prenait un effort conscient que je me disais, ben garde, ça prend ça pour m'habituer. Puis là, OK, tu commences comme ça. Super. À un moment donné, t'es comme, ouais, c'est facile, là, tu dis salut à quelqu'un, puis c'est beau, là. Et oui, ça implique absolument rien, là. Fait que là, à un moment donné, je sais pas, moi, tu marches dans la rue ou t'es dans un restaurant ou peu importe, puis tu croises le regard de quelqu'un, puis, hey, salut, ça va bien? Puis on fait comme, ouais, super. Il n'y a pas eu de conversation. T'as juste poser la question à quelqu'un si ça allait bien. C'est tout. Puis là, éventuellement, tu fais des petits steps comme ça, right? Là, ça part de toute la planification, mais tu sais, quand je dis que je fais une planification, là, je ne m'écris pas sur une feuille
non,
à tous les
c'est
steps.
Ça, non, mais
c'est plus de voir, OK, c'est quoi le prochain step pour m'améliorer pour me rendre plus à l'aise? Puis là, c'est rendu, honnêtement, avant Noël, j'étais à SAQ pour acheter des bouteilles de vin, puis là, il y a quelqu'un en file, juste en l'air de moi, avec un panier, avec comme 12 bouteilles. Je fais « Tabarouette, il y a des buvées ici, à Noël? » Puis là, je me suis mis à jaser pendant comme 10 minutes dans la file, parce que c'était une grosse file quand même. Là. Mais c'est là que tu te rends compte, à un moment donné, tu jases de tout et n'importe qui. Puis les gens, ils jasent. Là. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie, dans quoi ils travaillent, écoute, tu peux...
Ça commence à sourire à des gens sur le Mont-Royal, puis ça finit à la chambre du commerce, où t'es comme « Bonjour, Toby Desgreniers, j'entendais votre conversation. »
Mais ça, c'est intimidant. Hey, interrompre des conversations, c'est un autre game. Ça, j'ai découvert ça dans les derniers mois.
J'aime ce que tu as dit, ça me fait faire un lien avec, je pense, Jordan Peterson, qui, en tout cas, un mec qui disait quelque chose par rapport à des gens qui sont en dépression, tu sais, puis tu dois te trouver une montagne à conquérir, puis si tu la mets trop haute, ben là, réduis-la. Ouais. Tu as réduit jusqu'à « je vais sourire à quelqu'un dans une run ». Une fois que ça, c'est fait, tu grimpes progressivement. Il faut de plus le parcours.
Moi, j'ai l'impression que c'est souvent le problème de trouver la montagne. J'ai l'impression que c'est souvent le problème de trouver le problème, ce qui te rend inconfortable dans la vie. Des fois, on est vraiment mêlé dans notre quotidien. On est comme « je sais que je suis inconfortable, mais Colin, j'ai de la misère à mettre le doigt dessus ». Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Ben ça, c'est une deuxième question. Mais tu sais, de cerner le pain point, je pense que c'est ça un des trucs en entrepreneuriat. Puis, tu sais, tu disais, toi, tu es là pour régler des problèmes essentiellement, mais de trouver le problème, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ou est-ce qu'en fait, ça devrait être comme évident?
Faut que tu ailles le côté humain, je pense, de ça. Moi, je me suis fait dire que j'étais bon pour faire ça. Bon, j'ai pas encore mes preuves personnelles, disons, pour dire que je me considère bon pour faire ça, mais faut que tu ailles le côté humain de comprendre. Le problème, il est jamais technique, c'est jamais la technologie en arrière, c'est plus la personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce que cette personne-là te dit qui est vrai? Puis qu'est-ce que cette personne-là te dit? Puis toi, tu vois peut-être autre chose. Right? Fait que c'est d'aller des fois dans les nuances de choses que la personne ne connaît peut-être pas, ou elle ne sait pas qu'elle travaille de même, ou elle ne sait pas qu'elle fait les mauvaises choses. Puis là, c'est là que c'est plus compliqué de dire à quelqu'un, ben écoute, je comprends que tu travailles de même, c'est peut-être la mauvaise approche, avais-tu pensé à faire ça?
Ouais.
Vois-tu les avantages à faire ça comme ça? Right? De pousser les gens à comprendre mieux leurs propres problèmes, puis après ça, adopter une solution que tu leur proposes. Parce que adopter une technologie, on en fait tous les jours. On a nos cellulaires, on installe des applications. Nos profs à l'université diraient « Ah, installer telle application pour avoir accès aux notes de cours. » Je pense qu'il n'y a personne qui va chialer. On va juste trouver ça un petit peu bizarre, mais tu sais, on sait comment faire. Fait adopter des technologies, c'est pas ça qui est compliqué. Te rappeler tout au long de la session que ce seul prof-là utilise cette application-là, puis qu'à un moment donné, tu fais « C'est vrai, ils sont où les notes de cours, voyons? » Puis tu t'en souviens jamais. Puis tu dis « Ah, c'est vrai, ce prof-là, il utilise une application. » Fait que c'est la méthodologie en arrière. C'est la manière de travailler qui est difficile à changer. Puis c'est d'adapter cette manière de travailler-là, justement, chez un client. C'est ça qui est vraiment le défi. Puis en transformation numérique, automatisation d'entreprise, il est vraiment, vraiment, vraiment là, la difficulté.
Puis pour toi, on dirait que ta vie, un petit peu ton parcours de ce que tu as pu nous parler aujourd'hui, est-ce que tu as une vision un petit peu du succès? Est-ce que pour toi... À quoi ça ressemble dans les prochaines années? Comment est-ce que tu vas... C'est ça, c'est quoi ta vision du succès? Pourquoi est-ce que tu vis cette vie-là, ce lifestyle-là? Pourquoi est-ce que tu as choisi telle chose? Qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que c'est ça qui est associé au succès? Pour toi, c'est quoi?
Oh boy. Je pense que le succès, c'est propre à chacun. Très honnêtement, je sais que c'est plate comme réponse, je m'excuse. Mais...
Ah non, mais tout le monde commence par ça, mais ensuite, il rajoute quelque chose.
C'est ça.
Là, on va voir ce que tu vas rajouter.
C'est propre à chacun dans le sens où, moi, je pense que le succès, encore là, on parlait de l'appréciation du cheminement tout à l'heure plutôt que la finalité. Fait que c'est un petit peu ça. C'est de voir quel genre de... Moi, je me pose tout le temps la question, quel genre de vie je veux vivre, right? OK, ben je veux vivre une vie qui est relativement aisée, right? Genre, avoir de la misère à avoir de l'argent à la fin du mois, je ne veux pas vivre ça, je ne souhaite pas ça à personne. Je ne l'ai jamais vécu, je suis content, mais je connais du monde qui l'ont vécu. C'est extrêmement stressant, là, quasiment au point que tu n'es plus fonctionnel. Fait que c'est une vie aisée, tu veux une vie d'amour, right? Fait qu'éventuellement, je ne suis pas encore rendu là, mais fonder une famille. Tu sais, en ce moment, je suis en relation de couple, merveilleux. Désolé encore pour l'auditoire, parce que oui, je suis en relation de couple. Mais tout ce qui est justement fonder une famille, tu sais, avoir te valoriser un petit peu dans ton travail puis dans tes responsabilités. Fait qu'être père, moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Puis pas juste pour je suis père, j'ai deux, trois enfants. Non, mais pour tous les apprentissages que tu peux leur montrer, les obstacles que toi tu vas avoir à surmonter. C'est pour ça que je dis que je suis pas encore prêt parce que ça me fait extrêmement peur. Mais éventuellement être père, définitivement. Après ça, être entouré. Puis je dis pas entouré, mettons, d'avoir 50 ou 100 amis proches. Mais
pas vivre la solitude.
Du monde sur qui tu peux compter, puis de comprendre que le monde n'est pas là pour te nuire, puis ils sont pas là pour te faire échouer. Là, juste encore un matin, Hein, on est une journée froide aujourd'hui. Mon char, il part pas. Je me dis, bon, j'ai 8 minutes pour me rendre à l'université pour enregistrer ce podcast-là. C'était la première fois ever que mon char, il partait pas. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'habite en avant d'une école primaire. Je descends dans la rue. Les parents, ils venaient porter leurs enfants. J'ai cogné à des fenêtres pour dire, faut que j'aille à l'Uni. Mon char, il part pas. Tu peux-tu m'aider? Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Fait que c'est d'avoir cette appréciation-là, je pense, pour la vie puis pour toutes les choses que tu peux apprendre, les compétences que tu peux développer, les gens que tu peux rencontrer, puis les, je veux dire, la beauté de notre monde, mettons. Là. C'est difficile à voir, surtout, encore une fois, on parlait de guerre au début, tout. Des fois, on se dit que dans les journaux, tout est sensationnaliste, puis tout est très sombre, mais il y a des belles expériences à la vie, puis des choses très simples, des fois, comme juste sourire à un coureur quand tu le passes, puis...
Ouais, puis ça, je pense que c'est aussi un très bon conseil pour tous ceux qui écoutent, là, de prendre la vie un petit peu comme ça, puis d'avoir du plaisir, puis d'apprécier le parcours. Oui, se fixer des objectifs, de prendre ça comme ça, puis dire allô à un coureur, mais d'apprécier chaque expérience comme ils viennent, puis comme ils sont. Puis,
comme conseil aussi, ce que j'ai aimé, tu as dit, trouver en fait à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Mm-hmm. Une fois que vous avez identifié ça, trouver les petits premiers steps, soit sourire à un coureur, qui vont progressivement vous mener là.
Tu sais, d'être conscient aussi de ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas.
Ah oui.
Tu sais, moi, je regarde la vie à Elon Musk, je regarde la vie à Bill Gates, je regarde la vie à Jeff Bezos, right? Les grandes personnes qu'on apprend puis qu'on entend parler de leur monde puis de leur réalité, puis je me dis, moi, leur vie, là, elle m'intéresse pas pour deux
semaines. C'est facile de vouloir se mettre dans le sujet, mais même Elon Musk, je pense qu'il a dit, si les gens savaient ce qui se passait dans ma tête, je pense
il
pas qu'il
y rien savoir. Ah,
ouais. Moi, je le sais que je veux rien savoir de ça. Le gars, il est tellement intense, il dort au bureau, je veux dire, bon, je sais pas à quel point il se sent seul, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui affirment que plus tu montes dans les échelons sociétals, disons, les échelons économiques puis sociaux de la société, en général, plus les gens ils se sentent seuls, t'as moins de gens qui peuvent relate à ta réalité, qui peuvent comprendre ce que tu vis, puis qui se disent, ben voyons, t'as 70 millions dans ton compte, genre pourquoi t'es pas heureux? Ben, c'est ça. C'est parce que le bonheur, c'est pas l'argent que t'as. T'sais, c'est beaucoup plus multifacette que ça. Il y a énormément de choses au bonheur. Puis tu peux avoir été pauvre, puis être ultra heureux, puis être super riche, puis être malheureux, puis pas comprendre comment t'as fait pour te rendre là.
Je pense
c'est très vrai. Ben, je pense que c'est une belle façon de terminer la discussion sur une note positive comme ça.
Ouais.
Je pense qu'on peut en tirer énormément de la discussion. Merci encore beaucoup pour ton temps, Toby. C'est vraiment agréable.
Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était vraiment le fun comme premier podcast, honnêtement.
Très agréable. Ben, j'espère que tu vas en faire plusieurs autres.
Ouais, ça serait le fun.
Très agréable. Merci.
N'oubliez pas de sourire aux coureurs.
Yes.
Très belle discussion aujourd'hui, hein, Paul?
Très, très belle discussion. Qu'est-ce que t'en retiens, Charles?
Ouais, ben moi, j'en retiens particulièrement... En fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que Toby se décrivait comme une personne de hautaine, un petit peu imbue de lui-même. Puis, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'hyper empathique, qui est hyper accessible. Moi, honnêtement, ça me fascine à quel point est-ce qu'il a pu changer, si on veut, son caractère ou apprendre un nouveau caractère comme ça. Moi, ça m'a... C'était le moment fort de la discussion pour moi parce que j'étais complètement fasciné. Toi, Paul?
Pour moi, ben, je pense que je l'ai mentionné pendant la discussion, mais c'est quand il a dit... Ne sois pas obsédé par tes propres idées, mais sois obsédé par les problèmes que tu peux régler pour les gens. Parce qu'en effet, un entrepreneur qui a des bonnes idées au mauvais moment, comme je pense le disait Anthony Saint-Cyr, tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si ce n'est pas un bon timing, ça ne va pas marcher. Fait qu'un bon timing, ça veut dire que ton idée règle un problème. Ça veut dire que tu peux être utile, être une valeur ajoutée aux gens. Donc, soyez certains, entrepreneurs, d'avoir une valeur ajoutée et d'être en mesure de régler un problème.
Absolument. Puis comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Mille et une voix du succès. Si vous voulez nous rejoindre au mille et une voix du succès à commercial@gmail.com. Et puis...
Questions, commentaires, suggestions d'invités, préférences d'épisodes futurs, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de recevoir vos courriels.
Et abonnez-vous.